Moi, je vous vois, André, vous êtes devant moi, et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'origine de quelques mots, à commencer par « pot-pourri ».
Ben oui, je vous en parlais du « pot-pourri » dans mon introduction. Oui. Un calque direct de l'espagnol « olla podrido ».« Olla » pour « pot » et « podrido » pour « pourri ». C'est un mot composé qui apparaît au 16e siècle. À l'époque, ça désignait un ragoût de viande, de légumes, d'herbes, d'aromates, bref, un peu tout ce qu'on avait sous la main, qu'on laissait très longtemps sur le feu. C'était même une spécialité de la ville de Burgos, en Espagne. Je ne sais pas s'ils en font encore, d'ailleurs, mais je ne suis jamais allé à Burgos, peut-être un jour.
Je vous le souhaite.
On peut imaginer le pot avec le ragoût, mais pourquoi pourri?
Ben oui, c'est pas très appétissant.
Pas très appétissant. Hein? Mais à cette époque, on disait des aliments très ramollis et même éclatés à la suite d'un excès de cuisson qu'ils étaient pourris.
Ah.
On dirait une giblotte ici.
OK, ça ne voulait pas dire pas mangeable puis non, avec du verre
non,
dessus. Là.
Non, peut-être, là, mais c'est pas ça, en fait, à la base. Je pense que giblotte ici, ça traduirait bien ce que c'est. Terme, ça a été aussi employé par la suite pour désigner un mélange de fleurs, d'herbes, d'aromates qu'on faisait macérer sur une longue période pour parfumer l'air ambiant. Finalement, pour désigner tout type de mélange au sens figuré, hein, le pot-pourri musical, on l'a adapté à toutes sortes de sauces.
Oui, c'est le cas de le dire.
Du pot-pourri, on passe au bigoudi.
C'est drôle, ça, comme mot.
Oui, c'est drôle. Un mot apparu au 19e siècle qui nous vient du portugais bigode, B-I-G-O-D-E, mais en fait, le portugais, c'est pas facile à parler, le portugais. Ça se prononce bigoudi, justement.
Ah.
Ça veut dire moustache en portugais.
Ah, oui.
Ouais. C'est quoi le rapport?
Moi, je voyais les rouleaux, les
voilà.
Boucles.
Ça s'en vient, je vous explique tout ça.
D'accord.
En espagnol, très près de bigode, c'est bigoté avec un T, et le petit rouleau qui servait à friser la moustache s'appelait bigotera.
Oh, on se frisait la moustache.
Au 19e siècle, c'était très à la mode de
comme
se friser
Dali,
la moustache.
Hein. Ouais. Je ne sais pas s'il y avait des rouleaux.
Des longues moustaches bien frisées au bout. Là. Mais pourquoi c'est le nom portugais de la moustache qui a été adopté pour désigner le petit rouleau et non le nom espagnol? Ça, les linguistes se grattent encore la tête. Probablement justement parce qu'il y a un côté un peu amusant à dire bigoudi.
Oui, oui, c'est vraiment un mot.
C'est la seule explication que je vois.
Bigoudi, comme pour un nom de chat ou chien, ça pourrait être drôle.
Oui, ça pourrait être. Un petit chien frisé.
Oui, un caniche.
Bigoudi. Très cute, ça.
Vous passez maintenant au mot tombola. Ça aussi, c'est un mot rigolo.
Tout à fait. C'est une loterie où l'on tire au sort des numéros, une tombola. Chaque gagnant, d'habitude, reçoit un lot en nature, genre un grille-pain, une cafetière. On a tous vécu ça. On voit souvent ça dans des tournois de golf, des galas d'organismes de charité, par exemple. C'est un diminutif de l'italien « tombolare », en référence au billet…
Tombolare!
On pourrait. En référence au billet ou aux boules qui tombent lors du tirage, tout simplement.
OK, je pensais à la personne qui gagne un gros lot qui tombe,
Qui tombe en bas de sa chaise.
Tombe là.
Qui tombe là. Qui tombe en bas de sa chaise.
Jeu de mots un petit peu tiré par les cheveux.
Pourquoi pas?
Ouais. Pourquoi quoi?
Pourquoi quoi?
C-O-I.
Oui, pas Q-O-I, C-O-I. Comme dans se tenir quoi? Une autre façon de dire se tenir tranquille, se taire.
Pas parler.
Ne pas bouger.
Ah!
Oui.
Bouge
se
pas.
Tenir quoi? Se tenir à carreau, qu'on dirait en français.
Ah oui.
De France.
J'aime ça.
Un mot qui remonte au 12e siècle. C'est pas d'hier, hein? C'est un peu... On n'utilise plus ça, d'ailleurs. Ça nous vient du latin quietus, la même racine que pour quiétude.
Mais c'est revenu récemment. Il me semble que j'ai vu une télésérie. On parlait du mot quoi, puis on faisait des jeux de mots autour de
avec
ça.
Avec quoi?
Oui, ah. Oui. Avec le vrai
possible.
Sens là, du mot quoi. Je me suis tenu quoi? Quoi, quoi, quoi? Puis on s'amusait avec ce mot-là.
Un autre mot ancien du 16e siècle, pratiquement disparu, bécicle. Pas bécicle.
Ouais,
bécicle.
Comme dans vos dommages.
Exactement.
Sortir les bécicles
du
garage.
Les bécicles du garage. B-E-S-I-C-L-E-S, toujours au pluriel, pour dire lunettes. En fait, c'était de grosses lunettes rondes, très lourdes, les bécicles. À l'origine, au 14e siècle, parce qu'on remonte aussi loin que ça, on disait plutôt béricle. C'est une variante de béryl. Ça désignait la pierre à partir de laquelle on fabriquait les verres de ces lunettes.
OK.
Ouais,
ouais. Ça, on l'utilise plus, ce mot-là?
Non, plus du tout.
Alors, André, maintenant, trois expressions, puis montez pas sur vos grands chevaux.
On commence justement avec monter sur ses grands chevaux. Je vais essayer de rester calme.
OK.
Au Moyen Âge, quand les chevaux étaient utilisés pour faire la guerre, Mais les chevaliers, on peut l'imaginer, en sélectionnaient des spécimens de très grande taille pour avoir une vue dominante sur l'adversaire. Mais au sens figuré, l'expression elle est née par analogie avec le chevalier qui s'en allait défendre les intérêts de son royaume avec fougue et fierté.
On le voit.
Oui. Brandissant l'épée.
Ouais.
De là le lien avec une personne qui défend ses convictions avec un certain emportement. Et puis une citation extraite d'une pièce de Molière illustre très bien cette émotion-là. Ça se lit comme suit. « Dessus ces grands chevaux est monté mon courage. Et si je le rencontre, on verra du carnage. »
Oh, ça voilà. Rime.
Ça rime.
On est dans une pièce de Molière.
Tout à fait. En alexandrin. « Se faire le coup du lapin. » qui veut dire subir un traumatisme cervical.
Oui, ça fait mal.
C'est l'aller-retour violent là, des 7 vertèbres cervicales suite à une accélération et une décélération très brutale, typique d'un accident de voiture.
Hein. Je pensais que c'était le coup de lapin, le coup...
Non, c'est du lapin, c'est okay. Ça. Et pourquoi on dit ça?
Le lapin qui nous fait un coup.
Non, c'est
comme
référence... Oui, c'est ça. Non, c'est pas les lutins qui font... Non, ça, c'est à Noël, je suis tout mêlé. C'est en référence au coup mortel qu'on porte sur les vertèbres cervicales du lapin pour le tuer instantanément sans le faire souffrir.
Ouais. Okay.
Ça peut avoir l'air cruel, mais le lapin ne sent rien, semble-t-il.
Non, mais il est mort.
Mais il est mort.
Autre expression.
Typiquement québécoise, courir la galipote pour dire qu'on part à l'aventure, souvent à la recherche d'aventures amoureuses ou d'aventures coquines. La galipote, mais on disait aussi ganipote avec un N. C'était, selon la légende, une créature maléfique issue du folklore des provinces du centre-ouest et du sud-ouest de la France. Hein, autrefois, c'était le Poitou, le Saint-Onge. Plusieurs de nos ancêtres québécois viennent de là.
Ah.
C'est comme ça que l'expression a voyagé jusqu'à nous.
Courir la galipote.
Voilà.
Et pour terminer, quelques noms de lieux qui suscitent la curiosité, comme un lieu qui se trouve près de Rimouski.
Le Bic.
Dans le bas du fleuve.
Oui. Êtes-vous déjà allé au Bic?
Oui. Ouais,
c'est magnifique.
Ouais. Hein? Oh, il y a un camping là avec une vue. On était monté, il y a une vue merveilleuse.
Des petites montagnes dans la mer, c'est un petit côté Thaïlande à la limite. Ouais. Avec ces petites
montagnes-là.
C'est réputé
hein, comme l'endroit où il y a des couchers de soleil absolument extraordinaires.
Alors, lors d'une exploration menée en 1603, 5 ans avant la fondation de Québec, Champlain mouille dans le Havre du Bic. Il donne alors le nom de Pic, à ce qui est aujourd'hui appelé le Pic Champlain. Pic Champlain, c'est une des petites montagnes du Bic. Je pense que c'est la première quand on arrive de l'ouest. Et de retour en 1613, il utilise plutôt le nom Bic, B, au lieu de P, dans ses écrits pour la même montagne. Alors, on s'est demandé, les linguistes se sont demandé pourquoi ce changement de nom. Alors, une des hypothèses, c'est qu'à l'époque, un pic s'appelait aussi un bec ou un biec.
Ah.
Et biec aurait évolué vers bic, tout simplement. Alors, c'était des synonymes. On pouvait dire bic, pic, biec. Voilà.
Nick Pic.
Nick et Pic.
Mais ça, c'est une autre chose.
Un peu moins connu, Saint-Louis du AA.
Oui, ça existe pour vrai.
Tout à fait. AA, achat, point d'exclamation. C'est près du lac Témiscouata, entre Rivière-du-Loup puis la frontière du Nouveau-Brunswick. Un nom intriguant qui vient d'un ancien terme français aujourd'hui disparu parce qu'un AA, c'était un cul-de-sac ou un obstacle inattendu sur notre route. Et Saint-Louis du AA, ça viendrait d'une particularité géographique du lac Témiscouata qui forçait les anciens voyageurs à faire un long portage en passant par le territoire aujourd'hui occupé par le village de Saint-Louis. Il y avait un obstacle qui bloquait leur route.
Ah, il y avait un « ah
ah ».
Les lundis des « ah avec « ding et dong ».
Oui, effectivement.
Et l'autre mot, ben, c'est on est dans une municipalité,
toujours,
la colle.
La colle, tout près de la frontière américaine. Rien à voir avec la colle.
La colle Lepage.
La colle Lepage.
Là, c'est dans un seul mot, là.
Un seul mot. Et ça proviendrait d'une ancienne seigneurie du 18e siècle située au sud du village sur une petite colline. C'est qu'en vieux français, le terme colle désignait justement une petite colline, on disait une colle.
Ah bon, la colle. Donc, on salue les gens de la colle. Je ne sais pas s'ils s'appellent les Lacollois.
Bonne question.
Ouais. Le gentilé pour les habitants de la colle. Ouais.
L'île aux coudres.
Mathieu est en train de regarder ça.
Parfait. L'île aux coudres dans Charlevoix. Quand j'étais enfant, je disais l'île aux coudes.
Oh.
Donc, au Coudre, nommé ainsi par Jacques Cartier dans son second voyage en 1535. Le Coudre, qu'on appelait aussi Coudrier, c'est un petit arbre qu'on nomme aujourd'hui noisetier.
Ah.
Et Jacques Cartier a tout simplement utilisé ce nom à cause de l'abondance de ses noisetiers sur l'île.
L'île aux coudres. Est-ce que vous avez déjà fait le tour de l'île aux coudres?
Tout à fait.
C'est joli, hein?
Rester quelques nuits, ben, oui. C'est tout à fait paisible.
Oui, bucolique, c'est le mot. Ouais. Oui, Mathieu?
Oui, le gentilé de la colle, ce sont des Lacollois et Lacolloises.
Merci beaucoup. Tadoussac, maintenant.
Tadoussac, qui borde l'estuaire du Saguenay. Les Inuits l'appellent Toutouskak, qui veut dire mamelle. Un nom qui fait allusion à deux collines rondes et sablonneuses situées du côté ouest du village.
C'est bien d'apprendre les origines de ces noms-là.
On a tellement d'origines autochtones dans les noms au Québec. Là, oui. C'est bien de se le rappeler.
Et pour terminer, l'île des Sœurs, j'imagine qu'il y avait des religieuses qui avaient leur couvent là?
Absolument. C'était les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame de Montréal qui ont été propriétaires d'une grande partie de l'île pendant plus de 200 ans. Et jusqu'en 1899, on parlait plutôt de l'île Saint-Paul. Et ce serait le premier ministre du Québec de l'époque, qui s'appelait Félix-Gabriel Marchand, qui aurait commencé à l'appeler l'île des Sœurs.
Ah!
Oui.
Ça vient de Félix-Gabriel Marchand,
Tout à fait. Il était premier ministre juste 3 ans. C'est pas quelqu'un qui a marqué le paysage politique québécois, mais quand même.
Il a quand même changé le nom de l'île.
Tout à fait. Et vendu en 1956 à la Quebec Home and Mortgage Corporation Limited, l'île est définitivement abandonnée par les Sœurs en 1960. Tristement, là, parce que leur couvent est alors détruit par un incendie criminel.
Ouais. Ah, criminel!
Ouais.
Ouais.
C'est assez triste.
C'est bien triste. C'est sur cette note qu'on finit, mais l'île des Sœurs, c'est tellement beau avec le fleuve.
Je peux
tout
vous
autour.
En parler.
Oui.
Mon nouveau lieu de résidence.
Oui. Merci beaucoup, André. On se retrouve dans 2 semaines.
Merci, à bientôt.
On parle avec les gens d'INCA au retour. Vous pouvez